Bonjour à tous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8, comme Rachel vient de lire. Ce n'est qu'en nous plongeant dans le texte biblique, ancien comme nouveau testament, que nous pouvons nous imprégner de la pensée de Dieu. Ce n'est qu'en écoutant les paroles de Jésus que nous pourrons trouver une voie, un chemin qui nous amène dans sa présence. Dans le texte du jour de ce dimanche, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Voilà une parabole de Jésus, d'apparence assez simple. Un vigneron, du travail dans la vigne, des journaliers pour faire le travail, des situations différentes tout au long de la journée, et à la fin, une même rémunération qui amène les victimes de l'injustice apparente à murmurer contre le patron qui ne cherche même pas à se justifier. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ces paroles de Jésus méritent qu'on s'y attarde un peu. D'abord, le contexte. Nous sommes déjà au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu. Un certain nombre de choses ont déjà été dites. Vous avez appris, mais moi je vous dis, pour préciser la pensée de Dieu. Le ministère de Jésus avance et Jésus retourne vers Jérusalem où les événements vont s'enchaîner. Au chapitre 19, verset 16, juste avant, c'est la rencontre avec le jeune homme riche. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Une préoccupation humaine. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Une logique du donnant-donnant, pour acquérir un avantage, en l'occurrence la vie éternelle. Faire quelque chose de notre vie, faire quelque chose dans nos vies qui obligerait Dieu à nous accorder la vie éternelle. Jésus lui explique que ce n'est pas comme cela que ça marche. Pour une vie en société vivable, l'observation des commandements que Dieu a transmis à Moïse, c'est le minimum. La société organise le rapport au prochain, pas de violence, c'est-à-dire pas de meurtre, une sexualité respectueuse, pas d'adultère, un rapport honnête à l'institution judiciaire, pas de faux témoignages, le respect de la propriété, pas de vol, et une obligation de solidarité. Honore ton père et ta mère. Jésus rappelle ce que le jeune homme sait déjà et qu'il pratique avec conviction. À la fin de l'entretien, Jésus suggère au jeune homme de vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. C'en est trop. Le jeune homme s'en va triste. Réaction des disciples. Et nous ? Qui peut être sauvé ? Et Jésus de répondre au 19 verset 26. Aux hommes, cela est impossible. À Dieu, tout est possible. Concernant évidemment le salut et l'accès à la vie éternelle. Jésus annonce son règne à venir et l'invitation pour les disciples qui l'auront suivi à régner avec lui. Quitter sa famille, sa terre, sa maison, suivre Jésus et recevoir en héritage la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers, dit déjà Jésus au chapitre 19, verset 30. Vient ensuite le texte que nous venons de lire. Car le royaume des cieux est semblable à. Quelques éléments ici et là, au fil des évangiles, pour nous aider à appréhender la réalité du royaume des cieux que nous appelons à venir lorsque nous prions que ton règne vienne. Dans notre parabole, il est décrit un maître de maison, vigneron, qui a besoin de main-d'œuvre pour produire et récolter du raisin. À l'aube, dès 6 heures du matin, il embauche. Le salaire est discuté, ce sera le salaire habituel de 1 denier pour une journée de travail. De quoi nourrir et subvenir aux besoins minimaux d'une famille. Pour la loi juive, le salaire devait être payé sans retard. Par exemple, dans Deutéronome 24, versets 14 et 15, nous lisons « Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. » Ou, dans Jérémie 22, verset 13, « Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Jésus parle d'un maître de maison qui est parfaitement familiarisé avec ses principes du judaïsme. Apparemment, l'équipe n'était pas au complet, ou le travail n'avançait pas assez vite. À la troisième heure, à 9 heures du matin, du renfort est recruté. Sans discussion pour la rémunération, le maître promet ce qui est raisonnable sans préciser. Alors là, on ne discute plus. À midi, puis à 15 heures, ceux qui ont rejoint la place du village à la recherche d'un employeur sont également recrutés. Et même à 17h, une heure avant la fin de la journée de travail, une dernière fournée de journaliers est envoyée dans la vigne. Apparemment, ces derniers n'étaient pas au bon endroit plus tôt dans la journée, puisqu'ils affirment que depuis le matin, personne ne les a loués. La journée s'achève. Comme il se doit, le maître de maison demande à son intendant de donner un denier de quoi subvenir aux besoins matériels d'une journée, à chacun, en commençant par ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Les ouvriers de la première heure s'attendent à la proportionnalité. Une heure, un denier, 12 heures, 12 deniers, et c'est la frustration. Un denier a été convenu à l'embauche, un denier sera le salaire réglé. Un murmure de contestation légitime à nos yeux se fait entendre et le maître de maison, sans chercher à se justifier, laisse entendre qu'on ne peut quand même pas lui reprocher d'être bon. L'interprétation de ce texte qu'on entend le plus souvent, c'est lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu pour son service dans l'Église, pour le service dans la mission, pour notre vie de chrétien converti, la rémunération sera la même pour tous, et on cite souvent le malfaiteur cloué sur la croix à côté de Jésus, en Luc 23, verset 43, à qui Jésus promet, au moment même où il va mourir, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La durée de notre engagement à suivre l'enseignement de Jésus n'a pas d'incidence sur notre place à ses côtés dans son royaume. Un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, la mère de Jacques et de Jean, de ses disciples, demande une place privilégiée dans le royaume de Dieu pour ses fils. Jésus répond que cela ne lui appartient pas et que c'est Dieu le Père qui décidera, en rappelant que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Si l'on considère que le maître de maison est Dieu lui-même, notre logique marchande et comptable nous incite à murmurer avec ceux qui ont travaillé toute la journée et à dénoncer l'injustice apparente. La réponse de Jésus, « Mon ami, je ne te fais pas tort. » Le maître de maison affirme qu'il est bon. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? L'ouvrier, frustré de ne pas toucher un surplus de salaire, est appelé mon ami. C'est probablement une récompense beaucoup plus importante que le denier réglementaire est convenu. Mon ami, c'est une relation qui se tisse. C'est une réalité solidaire, au-delà de la valeur marchande d'une journée de travail. C'est la perspective d'un avenir et d'une possible évolution sociale. Si le maître de maison représente Dieu, cette parabole nous rappelle que Dieu entend nos murmures, il entre en dialogue, il n'a pas à se justifier, et que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est reconnaître que Dieu est bon. Son échelle de valeur n'est pas marchande et comptable, et ce qu'il donne a infiniment plus de valeur que ce que nous pouvons acquérir par nos efforts. Au XVIe siècle, l'Église de Rome avait institué des tas de règles qui permettaient de taxer les paroissiens dans l'espoir d'obtenir leur salut. Les réformateurs, Martin Luther en particulier, ont dénoncé ces pratiques dont le seul but était l'enrichissement matériel du clergé. Sa compréhension de la Bible est devenue que la foi seule pouvait générer le salut. Les œuvres n'étaient ni utiles ni nécessaires pour bénéficier de la grâce de Dieu. La foi et les œuvres ont été à l'origine de nombreuses discussions polémiques et entraîné beaucoup de situations conflictuelles. Au regard de ce texte, l'intendant du maître de maison n'a pas fait une distribution gratuite de deniers à la fin de la journée. Au contraire, chacun de ceux qui a été gratifié s'est impliqué personnellement au service du vigneron. La grâce à bon marché fait souvent l'économie du prix de la suivance du Christ. Dans la compréhension anabaptiste du salut, il n'y a aucun doute que le salut est offert par la grâce de Dieu et la mort et la résurrection du Christ. Mais la conséquence de notre conversion implique que nous nous engageons dans notre vie quotidienne à suivre l'enseignement du Christ, non seulement pour notre vie spirituelle, abstraite et personnelle, mais aussi dans notre façon de vivre au quotidien, dans notre famille et dans la société. Travailler dans la vigne du maître de maison est indispensable et nécessaire pour pouvoir bénéficier de la bonté de ce maître qui pourvoit à nos besoins quotidiens. La bonté de Dieu est une constante de l'enseignement biblique. Bien au contraire des divinités grecques ou romaines qui s'affirment par leur puissance pleine de violence. À la fin de la création déjà, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Et malgré la rébellion des humains contre leur créateur, Dieu est resté bon. Il veut entretenir une relation avec chaque personne, génération après génération. Il va sur la place pour nous proposer du travail dans sa vigne, non pas pour nous exploiter, mais pour qu'il puisse nous donner en échange de quoi subvenir à nos besoins du quotidien. Bien sûr, nos sociétés ont évolué et différents systèmes de solidarité ont été mis en place. Maladie, chômage, vieillesse, tout cela a été réglementé. Cela n'empêche pas de reconnaître que Dieu est bon. La terre donne du fruit année après année, même si ce fruit s'obtient à la sueur de notre front et en luttant contre les espèces envahissantes et les nuisibles de toutes sortes. Chaque récolte, chaque année, nous rappelle la bonté de Dieu. La Bible nous rappelle également que Dieu a donné la terre promise aux descendants d'Abraham, mais il a fallu qu'ils combattent pour entrer en possession de ce pays de Canaan. Dieu a donné la loi à Moïse pour qu'il la transmette à son peuple, afin que cette nation puisse fonctionner de telle façon à ce qu'elle soit un canal de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu a donné les prophètes pour dénoncer les mauvais comportements et le mal. Dieu a donné son Fils Jésus pour nous révéler les pensées de Dieu et nous ouvrir le chemin vers le salut et la vie éternelle. Dieu a donné l'Église, la communauté, les chrétiens partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, pour que le peuple de Dieu s'investisse dans les projets de paix, de justice et d'amour. Oui, Dieu est bon, nous le reconnaissons et nous le voyons d'un bon œil. Pour conclure, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cette parabole dite des deniers et des ouvriers de la 11e heure nous montre une fois de plus que nos pensées humaines doivent se confronter avec l'enseignement de Jésus. Le salut n'est pas le fruit de mon travail, mais de la grâce de Dieu. Néanmoins, lorsque je reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie, je suis invité à venir travailler dans sa vigne, dans son projet, pour restaurer cette création qui était très bonne à l'origine. L'entrée dans cette œuvre peut se faire tout au long de la journée, dès l'aube jusqu'à la 11e heure. Nous avons l'assurance qu'à la fin de la journée, chacun touchera ce qui est promis et qui permet de subvenir à ses besoins matériels quotidiens. Ceux qui auront supporté la fatigue du jour et la chaleur auront le privilège d'être écoutés et appelés « mon ami ». C'est là le vrai privilège d'une vie avec Jésus. C'est d'entrer en relation à la recherche d'une pensée corrigée, rectifiée et d'un chemin qui ne se perde pas dans une logique comptable et marchande. Amen.